franceinter.fr.
Demain matin, nous avons notre première séance de psychanalyse.
Mais ça va pas la tête.
Il faut vaincre tes terreurs.
Ça demande psychologie, doigté, souplesse.
Mais si je t'ai pensé,
je pense que t'es un ouf, toi.
Ah, je suis zinzin. Je suis zinzin.
Bonjour et bienvenue dans Ça va pas la tête, l'émission qui jette un regard culturel et je l'espère léger sur quelques questions psy et philo. Comment appliquer Épicure du petit déjeuner au coucher? Et même au-delà, c'est le thème du jour. Les vacances s'approchent, c'est peut-être le moment de tester de nouvelles façons de vivre. Et si on essayait d'injecter un peu plus de philosophie dans nos existences? Pas forcément la métaphysique d'Heidegger, mais plutôt les sagesses antiques très en vogue depuis quelques années. Et pourquoi pas la philosophie d'Épicure, mais il y a 2 siècles et demi dans une Grèce pas encore en faillite. L'épicurien n'est pas forcément un hédoniste, fan de grande bouffe et d'échangisme débridé, mais c'est le plus souvent un adepte de plaisirs simples, en bonne compagnie, pourquoi pas au bord de l'eau à l'ombre d'un seul pleureur. Nous verrons quels sont les grands remèdes que propose la médecine de l'âme d'Épicure pour affronter cette chaîne de vie et au-delà. Et puis nous nous intéresserons à quelques personnages de fiction épicuriens comme Candide de Voltaire ou plus étonnant, Gaston Lagaffe.
France Inter, Ali Rebéi.
Ça me dérange pas qu'il soit timbré.
Ça va pas la tête.
Amusez-vous, foutez-vous tout. La vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme on est fou. La vie est si courte après tout.
Amusez-vous, foutez-vous tout, un titre repris dans On connaît la chanson d'Alain René. Bonjour Jean Salem.
Bonjour.
Prof de philo à la Sorbonne, qui a marqué des générations d'étudiants comme Raphaël Antoven. Vous êtes l'un des grands spécialistes de la philosophie antique. Vous avez publié en poche Les atomistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure, Lucrèce, dans la collection Chants Essais, et puis 5 variations sur le plaisir, la sagesse et la mort, chez Michalon. Alors Jean Salem, amusez-vous, foutez-vous de tout, interprété par Albert Préjean en 1934, chante Épicure, hein, sans le savoir.
Certainement, de mon point de vue, puisque moi-même je l'ai chanté après une conférence où j'avais noyé mes auditeurs sous l'érudition à New York, en disant que c'était bien dans l'esprit épicurien, Florestan Ier, roi de Monaco, Albert Préjean.
Alors, quelle est l'idée reçue qui vous agace le plus sur votre bon vieux camarade Épicure?
Je ne sais pas si ça m'agace, mais c'est clair qu'il y a une sorte d'homonymie. Il y a ce qui pourrait se résumer par la maxime attribuée par saint Paul aux impies, « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Ça, c'est plutôt une sagesse, entre guillemets, anacréontique, horacienne, c'est-à-dire cours-y vite, le plaisir il va filer, tu vas être vieux, tu vas mourir. Tandis que l'épicurisme plus authentique, plus dans le droit fil de ce qu'a enseigné le fondateur de l'école, c'est tout de même plus serein, c'est l'idée qu'il faut savoir calculer avant de goûter à un plaisir, quelles en seront les conséquences. Le plaisir est le souverain bien, nous recherchons le plaisir, nous fuyons la douleur, mais le sage, c'est comme ça que parlent les anciens, le sage doit faire avec ce qui arrivera après, et il s'agit plutôt d'obtenir l'ataraxie, l'absence de trouble, c'est-à-dire la jouissance de plaisirs qui durent. Il y a des plaisirs très intenses, mais qui sont suivis de tant d'embrouillamini qu'on peut sauter par-dessus. Hyperbalein, on dit en grec.
Bonjour Blandine Le Callet.
Bonjour.
Vous êtes romancière, votre best-seller, Une pièce montée, a été adapté au cinéma. Vous êtes maître de conférence en littérature latine à l'université Paris-Est Créteil et vous venez de publier le second tome de votre BD, Médée, le couteau dans la plaie, dessiné par Nancy Peña chez Casterman. Alors votre Médée vit une jeunesse insouciante et joyeuse qu'Épicure n'aurait pas reniée, hein.
Quoique, commence à se dessiner quand même pas mal de drames en arrière-plan. Mais oui, c'est vrai que j'ai, dans les premières planches qui voulaient évoquer le bonheur parfait de l'enfance de Médée, j'avais dit à Nancy, on va faire un beau jardin. On va faire un grand jardin où les enfants courent en liberté, protégés du monde, dans un calme absolu. Et j'avais un peu en tête, effectivement, ce jardin où Épicure réunissait tous ses disciples.
Alors, Blandine Lecallet, ce qui vous plaît notamment chez Épicure, on y reviendra, c'est ce qui se passe au moment du coucher et surtout après le coucher.
J'ai jamais dit ça.
Si, Rantaine, vous m'avez dit ça.
Vous surinterprétez. Mais oui, effectivement, il y a une approche de l'amour et des plaisirs de la chair assez particulière.
Vous parlez de Vénus vagabonde.
Oui, ah, oui, oui. Bon. Bah, vous voulez que je vous fasse un cours, là,
tout
de suite?
Tout à l'heure. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Philosophe, auteur de Philosophie en série en 2 tomes chez Ellipse. On verra tout à l'heure avec vous que certaines mères de famille désespérées feraient mieux de relire ou de lire Épicure afin d'accéder à une certaine forme de bonheur.
Oui, absolument. Épicure est aussi un philosophe qui nous apprend à nous libérer de nos craintes et en même temps à construire un bonheur qui soit de l'ordre du bonheur domestique aussi, du bonheur du quotidien. Et donc, quand on est dans un quartier résidentiel un peu fictif, mais qui s'appelle Wisteria Lane,
Desperate Housewives,
voilà, dans la série Desperate Housewives, eh bien, on peut en tirer beaucoup de leçons.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef au magazine Lire, votre hors-série consacrée au Trône de Fer de George Martin est toujours en kiosque?
Il a été retiré des kiosques, bon. Malheureusement, il y a très
longtemps. Et on y retrouvait d'ailleurs des personnages plus adeptes de Machiavel que d'Épicure, hein.
Oui, qui sont plus, ils sont pas tellement dans la taraxie, pour le coup, dans le Trône de Fer. Ils sont plus dans l'assouvissement de désirs, qui vont plutôt vers la grande bouffe et vers des Vénus, pas forcément discrètes. Oui, hein, très vagabondes, oui.
Et puis, alors, avec vous, Julien Bisson, nous évoquerons deux personnages épicuriens, Candide de Voltaire et Gaston Lagaffe.
Oui, deux personnages très différents, mais dont vous verrez que chacun à leur manière, ils cultivent leur jardin.
Allez, intervenez, réagissez sur franceinter.fr, à la page Ça va pas la tête, et sur Twitter, hashtag Ça va pas la tête. Talk for a reason, sing for a reason, some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason, look around, there ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way, hey. Synapson et Anna Kova interprétés All in You, un titre choisi par notre programmateur Thierry Dupin.
Mais ça va pas la tête.
France Inter, Ali Rebi.
Un vrai psychopathe celui-là.
Ça va pas la tête.
9h20 sur Inter, comment appliquer Épicure dans la vie de tous les jours, c'est le thème de Ça va pas la tête avec les philosophes Jean Salem et Thibaut de Saint-Maurice, la romancière Blandine Lecallet et le journaliste Julien Bisson.
Pour moi, un épicurien, c'est quelqu'un qui profite de tous les plaisirs de la vie.
C'est quelqu'un qui jouit de la vie.
C'est quelqu'un qui sait profiter de chaque instant de la vie.
C'est quelqu'un qui profite de la vie à plein.
C'est une personne qui profite de la vie au jour le jour.
Et alors, quand on tape le mot épicurien sur un moteur de recherche, on peut tomber sur un magazine dédié au vin, sur une épicerie fine ou encore sur un restaurant dans le sud-ouest, un restaurant qu'aurait pu fréquenter Eddie Mitchell dans Le Bonheur et dans le Pré d'Étienne Chatiliez.
C'est pourquoi ce dîner ?
Voilà, Gérard, enfin, c'était plutôt pour un conseil.
Qu'est-ce qu'il y a, André, ce soir ?
Ce soir, Eddie, en beurré d'escargot et queue de bœuf.
Parfait, pour deux. Tu me choisisses le vin et Cernovitch, je suis de mauvaise humeur.
Moi, ça va faire trop.
Quoi ? Ça va pas être grossière en plus. Ici, on prend pas du brocoli cuit à l'eau de vitelle, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là ? Plaisir.
Oui, oui. Bon, ne changez rien, ça sera parfait.
Thibaut de Saint-Maurice, il est épicurien ou hédoniste, Eddie Mitchell, dans Le Bonheur et dans le Pré ?
Bah, tant qu'il affirme en fait son souci de prendre du plaisir sans ce que disait Jean Salem tout à l'heure, sans calcul, sans justification sur le fait que la conséquence sera bonne, sera la meilleure possible, il est plutôt à mon sens du côté de l'hédonisme strict parce que Épicure il aurait dit on est là pour prendre du plaisir et je te promets que ce plaisir là ne te fera pas plus de mal que de bien. Voilà. Alors que le vin et la nourriture, ça peut quand même conduire à une certaine forme de souffrance.
Blandine Lecallet.
Bah, je trouve qu'il est surtout grossier parce que Épicure, c'est avant tout l'amitié, passer un bon moment avec quelqu'un. Et c'est pas tant ce qu'on a dans l'assiette que la relation qu'on va avoir à l'autre. Et là, à mon avis, il n'est pas du tout épicurien de ce point de vue-là.
Jean Salem.
Sénèque, qui, quoique stoïcien, prend souvent son bien dans le jardin d'Épicure, dit précisément cela. C'est plus important de voir avec qui tu manges que ce que tu manges. Mais il est clair que on nous enseigne dans cette philosophie à tenter de chasser toute frénésie, toute surexcitation, j'ai envie de dire en franglais, toute superexcitation dans le désir. Alors il est évidemment difficile d'avoir un désir sans tension, sans tonos, mais enfin, c'est tout de même l'idéal paradoxalement proposé par Épicure. Essayer de réguler le désir. Et ça commence d'abord par le fait qu'on doit comprendre que les désirs infinis sont forcément impossibles à satisfaire. Le premier de ces désirs étant entre nous le désir d'une vie immortelle, la peur de la mort, ça n'est jamais, dit-il, que la cupidité de toujours être, l'envie d'être infini et pas de chance. Il faut s'astreindre à étudier des techniques d'accoutumance à l'inévitable. Et l'inévitable, c'est d'abord notre finitude.
Thibaut de Saint-Maurice, dans le langage courant, épicurien, ça rime encore et toujours avec jouisseur, hédoniste, sensuel, soucieux de son seul plaisir.
Oui, c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs dans les petits sons là, des gens interrogés. Ils disent tous profiter de la vie, se réjouir, profiter de tous les plaisirs. Et en fait, effectivement, Épicure, bah, il nous invite à nous réjouir. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui remet cette capacité-là au centre de notre existence, mais vraiment du présent et du quotidien. C'est se réjouir de, prendre plaisir à. Mais, c'est pas prendre plaisir à tout. Voilà. En fait, il faut être capable d'articuler d'un côté de retrouver en soi une vraie compétence, une compétence à se réjouir de, c'est-à-dire vraiment à prendre son plaisir. Et en même temps, l'articuler à ce que disait aussi Jean Salem, à une connaissance des désirs, en telle sorte que je ne me trompe pas, quoi. Je ne me prenne pas les pieds dans le tapis de mes désirs pour finalement aller vers quelque chose qui va m'apporter plus de désagréments.
Alors à propos du plaisir, Épicure nous dit, Jean Salem, qu'il faut se contenter par exemple d'un morceau de pain, de campagne, accompagné de fromage frais. Ça ne fait pas forcément rêver.
Non, alors ça n'est pas très sexy effectivement, mais le principe, si vous voulez, j'ose parler au nom du maître lui-même, c'est que le sage est disponible pour les grandes occasions. Donc il ne pratiquera pas bafrerie, orgie et autres débauches quotidiennement, parce que c'est mauvais, vous l'avez remarqué sans doute Ali, pour la santé de l'âme et du corps. Maintenant, le poisson est un mets, paradoxalement, curieusement, assez rare en Grèce, mais très cher. Si vous l'invitez, Épicure, à un banquet où il y aura du poisson, le sage est disponible pour les grandes occasions. En clair, la notion de péché est impensable dans ce genre de philosophie.
Il n'y a pas de culpabilité chez Épicure.
Oui. On vous dit, regardez, si vous voulez savoir ce que c'est que le bonheur, vous regardez les animaux et les petits-enfants. Encore une fois, ils courent vers le plaisir, ils fuient la douleur. Tout le problème, c'est qu'étant doté de comprenettes, l'animal humain qui a tendance souvent à se plomber lui-même en n'étant jamais satisfait, en voulant l'infini, l'animal humain doit comprendre qu'il y a une foule de faux besoins qui sont suscités par les passions sociales et qu'inversement, vivre c'est bien. Alors tout ça n'est pas très sexy, disais-je tout à l'heure, c'est pas non plus très excitant pour une mobilisation syndicale. Enfin, après tout, même des amis militants, car j'aime bien parler de résistance, surtout à ce système barbare dans lequel on s'enfonce, même à des amis militants. Je peux parfois faire remarquer que le désir infini est un danger, le désir infini de s'immerger dans l'action politique, dans l'angoisse, ça doit être régulé. Et ça ne veut pas dire qu'il faut démissionner, ça veut dire qu'il faut résister. Il faut pratiquer le plus qu'il est possible la joie de vivre. Bref, comme disent les pubs, positiver.
Blandine Le Callet, le bonheur selon Épicure sans la portée de main. Et pourtant, nous nous agitons pour obtenir pouvoir, notoriété, honneur et richesse.
Vous me visez?
Non, pas du tout.
Oui, bah oui, vous avez raison. Et en fait, effectivement, quand on veut être épicurien, au contraire, il faut qu'on arrive à garder cette distance par rapport, déjà par rapport à tout ce que nous propose la société de consommation, qui est finalement le contraire d'une épicurienne. Sous des dehors attrayants, elle nous pousse à avoir toujours plus de désirs, des désirs infinis. Et il faut justement qu'on arrive à se retirer de ça en se disant, mais comment trouver son plaisir dans des choses simples et faciles à se procurer, qui ne vont pas nous mettre dans une course à la recherche d'argent, etc. Et puis c'est vrai qu'il faut aussi, je pense, une certaine distance par rapport à cette comédie sociale, à l'ambition qui parfois nous agite. Il faut savoir se replier un petit peu sur soi de temps en temps, sortir du cadre, ne pas vouloir toujours être pris en photo et se retirer dans son jardin.
Thibaut de Saint-Maurice, commençons notre journée épicurienne. Dès le lever, évitons de nous préoccuper de la mort, car nous concerne pas, selon Épicure. Hein.
Oui.
Enfin, comme disait Woody Allen, je n'ai pas forcément peur de la mort, mais je préfère ne pas être là quand ça arrivera. Hein.
Ouais, c'est ça. Voilà. Mais en fait, on pourrait répondre à Woody Allen que de toute façon, pas de problème, il ne sera pas là quand ça arrivera. C'est aussi ce que dit Sartre. Il dit, on meurt toujours par-dessus le marché. C'est-à-dire, il y a une sorte d'incompatibilité logique et en fait existentielle entre moi et ma propre mort. C'est rigolo parce que ça, c'est un texte. Moi, j'enseigne à des élèves de terminale et c'est toujours un texte qui les fascine quand on lit le fameux argument d'Épicure qui dit, voilà, il faut pas avoir peur de la mort, parce que quand on est vivant, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, on n'est plus là. Et donc Épicure dit, vous voyez, c'est un truc absurde que d'avoir peur de la mort, parce qu'on n'est jamais contemporain de sa propre mort. Il y a une incompatibilité logique et donc existentielle en un sens entre moi et ma propre mort. N'ayons plus peur.
Les élèves, mais je préfère ne pas être là quand même quand ça.
Oui, c'est ça. Hein. Mais les élèves, ils disent, ok, on a compris, mais ça va changer quoi dans ma vie? Et en fait, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que dès le matin, on peut effectivement, au réveil, finalement se dire que cette question ne doit pas venir polluer toute la journée. En fait, je crois, moi, que cet argument un peu étrange, c'est une façon de dire à Épicure, arrêtez de vous soucier de ça, c'est incompatible. Voilà, ça doit sortir de votre vie, ça doit sortir de vos peurs, de votre existence, de vos préoccupations. Occupez-vous le matin de vous lever du bon pied, d'aller faire un bon café, d'aller prendre un croissant.
Ne pas se préoccuper de la mort, Jean Salem, mais également ne pas se préoccuper des dieux, parce que les dieux, si on y croit, se fichent complètement de nous, selon Épicure.
Je réponds, et je ne cède pas aux délices de l'autopromotion non déguisée. Dans le dernier bouquin que j'ai commis, qui s'appelle Résistance, je parle de choses personnelles, et je dis, sans proposer aucune psychanalyse au rabais, que, enfant, j'étais particulièrement soucieux du fait que nous devons, selon moi, retourner au néant. Les sagesses antiques aident à pratiquer une sorte de thérapie à peu de frais. Il suffit de lire des livres et d'essayer de s'en pénétrer. C'est aussi pour ça qu'elles sont à la mode. Et alors, pour ce qui est de votre question que j'ai oubliée vu mon grand âge...
Non, sur les dieux.
Les dieux, ils sont faits d'atomes, selon les épicuriens. Ils existent en dehors du monde, dans les intermondes. On dirait des dieux par accro, des dieux pour faire plaisir. Il ne s'agit pas de dieux, apparemment, qui sont proposés par prudence, par Épicure, histoire de ne pas avoir d'ennui. Il s'agit de modèles du bonheur. Si on a l'idée du bonheur, c'est que ça vient de quelque part. Tout est matériel dans cette doctrine, parce qu'encore une fois, Épicure croit que l'univers infini est fait d'atomes et de vide. Donc, si nous avons l'idée du bonheur, c'est qu'il y a des images, des simulacres, dans le langage technique, de bonheur qui nous sont arrivés, d'êtres qui sont actuellement, c'est-à-dire en acte, heureux. Et ces dieux nous fichent la paix. Ce sont des modèles d'autarcie, d'indépendance, et ce sont surtout pas des gratifications qu'on pourrait leur faire, qui vont leur faire plaisir.
Blandine Le Callet, le but des épicuriens, c'est de nous libérer de l'angoisse de la mort et de nous mettre à l'abri du danger de la souffrance. Mais quand on ne ressent plus aucun trouble, aucune douleur, plus aucune souffrance, c'est qu'on est un peu mort-vivant, non ?
Ah non, c'est qu'on est dans l'ataraxie, c'est le
plus
haut.
Mais il
n'est
pas emmerdant le bonheur calme, serein d'Épicure ? Si la vie est brève et que la mort ne nous concerne pas, autant la brûler par les deux bouts, cette vie.
Non, parce que si vous brûlez votre vie par les deux bouts, ça va être sympathique pendant quelques temps, et puis vous allez commencer à faire des crises de foie, avoir des tas de problèmes, parce que vous aurez abusé de coke, d'alcool, et vous serez très malheureux parce que vous aurez mal. Donc Épicure, il est tout le temps dans une sorte de calcul, justement, comment faire pour que ça dure le plus longtemps, le plus agréablement possible.
Et le bonheur popote, quoi.
Pas forcément. Un bonheur calme, c'est sûr. Un bonheur qui n'est pas frénétique, qui n'est pas agité. Un bonheur conçu au sein d'une société d'amis, en bonne compagnie. Donc un bonheur, ma foi, bien sympathique, moi je trouve, en tout cas.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, je vais parler sous le contrôle de Jean Salem ici présent, mais en fait brûler sa vie par tous les côtés, c'est un autre philosophe qui s'appelle Aristippe qui est dans une sorte de qui lui dit très clairement être heureux c'est l'excitation maximale des plaisirs à toute vitesse, le plus de sensations possible. Effectivement, Épicure est pas dans cet ordre-là et c'est voilà, on peut distinguer les deux choix. En fait, ce que vous appelez le bonheur popote, c'est aussi une façon de se réconcilier avec le fait que dans nos vies, il y a du quotidien, de l'habitude, de la répétition. Et en fait, on peut pas y échapper à ça. Et donc, soit le quotidien, l'habitude, l'ordinaire de nos vies devient quelque chose qui nous insupporte et dont on veut toujours s'évader, vive les vacances, vive la frénésie, soit, et c'est là où commence la sagesse, on comprend que cet ordinaire, ce quotidien, cette habitude, il va falloir se réconcilier avec, devenir ami de soi-même et ami de sa vie. Et donc, ça, c'est un bonheur peut-être popote, mais en tout cas durable et bien sérieux.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
Jean Salem, pendant longtemps, Épicure a eu une très mauvaise réputation.
Voilà, vous voyez qu'il n'est pas si popote que ça. Les adversaires de l'école ont pu, avant que un certain christianisme ne le voue aux gémonies et que Dante ne le condamne au feu de l'enfer, les adversaires de l'école ont pu dire finalement leur plaisir, c'est le plaisir d'un cadavre. Hein. Le sage d'Épicure, c'est necru catastasis, disent certains anciens, c'est la situation, la condition du mort. Et c'est pourquoi je m'inscris en faux. Non, c'est pas bonheur popote, c'est un bonheur raisonné. C'est un bonheur qui est maîtrisé par la raison. C'est la tripe qui peut aller vers ce qui occasionne des plaisirs, éventuellement de la chair, mais gouvernée par la comprenette. Si les débauchés, dit Épicure, textuellement, Maxime fondamentale 11, nous donner l'image de gens qui n'ont pas peur de la mort, qui n'ont pas peur des dieux, qui connaissent la limite des plaisirs et des douleurs, on ferait comme eux. La notion de péché, encore une fois, n'est pas pensable dans cette doctrine. La réalité, c'est que nous connaissons le spectacle des petits matins tristes, des gens qui poussent un peu dans la surexcitation de leur sens et de leur vie entière, Et je vous répondrai, mais cette fois-ci sans ironie aucune et plus sérieusement, la pathologie de l'humain occidental aujourd'hui, le bazar des couples qui font et qui se défont, le fait que tout le monde est malheureux, comme dit la chanson, l'atomisation dans les relations sociales, ça a évidemment un rapport avec ça, parce que ben, tout le monde est au courant que sur 7 milliards d'humains, 3,5 milliards de femmes, donc certainement des dizaines de milliers avec qui nous pourrions avoir des expériences agréables, c'est une question de, encore une fois, de raisonnement, d'arrêt sur image, qui fait qu'en général, les gens qui ont un parcours un tout petit peu serein considèrent cette situation, oublient les statistiques et passent à quelque chose qui peut paraître un peu plus tranquille, un peu plus satisfaisant pour les sergents de ville, mais peut-être et certainement même plus apaisant pour la personne elle-même.
Réagissez, intervenez sur franceinter.fr à la page Ça va pas la tête ou sur Twitter, hashtag Ça va pas la tête.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui ont dit en langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux. C'est bon. Je cherche un millionnaire avec des Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était ma
part. Heure taquite, c'est si bon.
Un repas difficile, une orgie qui passe mal, un cinquième éclair en dessert, utilisez Épicure 500. Grâce à sa molécule d'épicurisme actif, un seul comprimé d'Épicure 500 suffit à dissoudre instantanément les mauvaises graisses et à évacuer les résidus d'acide gras saturé par les pores de la peau. Avec Épicure 500, faites vos 10 repas par jour sans ballonnement ni culpabilité. Épicure 500 pour des orgies réussies. Épicure 500 est un médicament des laboratoires Larron.
Ça va pas la tête ?
Pastille signée, François Audon avec la voix d'Éric Oswald, 9h39 sur France Inter. Comment appliquer la philosophie d'Épicure du petit déjeuner au coucher avec les philosophes Jean Salem et Thibaut de Saint-Maurice, la romancière Blandine Lecallet et le journaliste Julien Bisson. Blandine Lecallet, comment vous appliquez Épicure dans votre vie de tous les jours, de mère de famille, de bonne mère de famille?
Moi, j'ai commencé à l'appliquer avant même de le connaître, dans l'enfance en fait. Assez tôt, j'ai développé des stratégies. Voilà, ça doit être ça. J'ai développé des stratégies pour vivre en souffrant le moins possible. Et après une enfance assez cloîtrée, une adolescence pas rigolote, là encore, je me disais comment trouver mon plaisir dans les choses faciles à me procurer. Donc je crois que j'étais épicurienne avant de découvrir Épicure. Et dans ma vie quotidienne, et ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, un certain rapport au désir, à la société de consommation, un certain rapport à l'ambition aussi, et une discrétion, c'est-à-dire... Je m'expose peu et je cultive la société des amis. Alors c'est une vie qui manque peut-être un peu de de panache, on peut dire. Il y a une forme de médiocrité dans l'épicurisme. Mais c'est aussi la vie de ceux qui se sentent peu résistants face justement aux drames et aux excès de l'existence. Je pense que je ne serais pas capable de mener une existence flamboyante et dangereuse et aventureuse.
Et d'ailleurs, Épicure préconisait de vivre caché.
Oui. Tout à fait.
Jean Salem, quelques pistes pour vivre en épicurien cet été?
J'attendais la même question. Donc l'été, je le laisse à chacun.
L'été, le reste de l'année, comment vivre en épicurien? Comment vous vivez en épicurien, voilà. Jean Salem?
Voilà, sur l'affaire de la crainte de la mort ou du dépit de devoir ne plus être, je crois que c'est très efficace. C'est sagesse antique, sans être lénifiant. Pour ce qui est de retour à la joie de vivre, troisième et dernière édition, regarder les animaux et les petits-enfants, ça veut dire spontanément vivre, on ressent que vivre c'est bien. Vous poussez la porte de la maison d'un jeune couple et vous retrouvez, vous réalisez, vous avez le retour de vieux souvenirs en entendant un petit être délicieux qui rigole ou qui pleure parce qu'il est il vient de tomber mais qui rigole 5 secondes après, vous avez l'impression d'un retour de la vraie vie, loin des passions sociales, des mesquineries ou des marottes qui vous ont agité juste avant d'entrer. Et puis, troisièmement, crainte de la mort, joie de vivre, troisièmement, il y a la résistance dans l'épicurisme. C'est à l'évidence pas du tout une philosophie révolutionnaire. Épicure n'est pas un réformateur social. Il vit dans une époque à peu près aussi joyeuse que la nôtre. C'est l'écroulement total de tout ce qui est, notamment de l'empire éphémère d'Alexandre, avec des démagogues qui rivalisent d'imposture, des guerres, etc. Mais vous savez qu'il prétend que pour expliquer notre liberté d'action... il faut imputer une liberté aux éléments eux-mêmes, aux atomes eux-mêmes. Cette fameuse et bizarroïde théorie de la déviation des atomes qui pourraient, à un certain moment de leur trajectoire, décliner selon un angle tout petit par rapport à leur trajectoire initiale. Une des preuves, et j'ai terminé, Épicure dit, quand une foule vous pousse dans un sens, vous pouvez bander les muscles de votre épaule et puis essayer de résister. Et c'est donc aussi une philosophie de la résistance à la pensée unique, de la résistance à la foule qui me pousse, de la résistance au conformisme mortel et de la résistance à l'investissement dans des choses stupides et vulgaires qu'on nous propose à grosse dose à notre époque.
Thibaut de Saint-Maurice, pour Épicure, la philo n'avait aucune utilité si elle ne guérissait pas l'âme et le corps. C'était la première fonction de la philo pour Épicure.
Oui, en fait, je pensais en fait au mot, mais très compliqué, de tétrapharmacon.
Oh là là.
En fait, oui, c'est vrai que cette philosophie, c'est d'abord, non, mais c'est une pharmacopée.
Je suis pas philosophe, moi,
mais c'est une pharmacopée. C'est des remèdes.
Se mettre à parler grec. Hein,
On a une approche maintenant très disciplinaire, très théorique de la philosophie, qui est une institution avec des connaissances et des, voilà. Mais là, on est dans une approche très pratique, enfin pratico-pratique, comme on dit, mais avec ce souci effectivement du remède. Voilà, du remède. La philosophie, elle doit nous aider à mieux vivre. Et pour mieux vivre, effectivement, c'est la santé du corps, la santé de l'âme. Mais mieux vivre.
C'est ça que j'aime aussi chez Épicure. C'est quand même une distance par rapport au savoir. C'est-à-dire que tout savoir qui n'est pas là pour nous libérer, nous rendre heureux, est inutile à ses yeux. Et ça aussi nous conduit en tant qu'intellectuels à nous interroger sur tout ce qu'on accumule et qui peut-être finalement est un bagage inutile, un fardeau destiné à briller en société. Qu'est-ce qui est essentiel dans ce qu'on a appris et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Alors pour Épicure, il faut tout faire pour ne pas tomber dans la dépendance, notamment la dépendance amoureuse. Blandine Le Callet, Épicure,
voilà, on y arrive.
Épicure préconise de multiplier les relations sexuelles, les relations amicales, mais pas les histoires d'amour. Il faut absolument fuir l'addiction amoureuse.
Surtout pas. En fait, pour Épicure, on éprouve un désir sexuel naturel qui est lié à une accumulation d'atomes au niveau des organes génitaux qui nous irritent, qui nous fait mal. Donc il faut se débarrasser de cette souffrance par une sorte de vidange, en réalité. Donc on sort, on rencontre quelqu'un qui accepte de vidanger avec nous, on fait la chose et après on est apaisé, on est content. Et ça doit être comme ça qu'on doit gérer notre vie sexuelle, par vidange successive, donc avec des rencontres agréables, mais
de
passage.
On écoute Barry White par exemple.
On écoute qui on veut, mais voilà, on se vidange et tout va bien après. Les ennuis commencent lorsqu'on commence à s'imaginer qu'on ne peut vidanger qu'avec une seule personne, qu'elle est la seule qui va nous apporter le bonheur dans l'acte.
Vous n'avez pas un autre mot que vidanger?
Vidanger, mais... je l'emploie à dessein parce que si vous voulez, pour Épicure, c'est ça, quoi. Il faut se libérer d'un trop-plein d'atomes. Et alors, si vous commencez à vous fixer sur quelqu'un en vous imaginant c'est la seule personne avec qui je peux le faire, elle va tout m'apporter, etc., là, vous commencez à désirer trop, en fait. Et à vous mettre en danger parce que le jour où elle ne voudra plus de vous, vous allez souffrir. Le jour où elle disparaîtra, vous allez souffrir. Et jamais vous n'arriverez à la posséder corps et âme, en fait. Donc, vous commencez à en vouloir trop. Donc, Épicure dit qu'on ne tombe pas amoureux. On s'adonne à cette Vénus vagabonde. D'ailleurs, un conseil pour l'été, parce qu'on peut être épicurien cet été comme ça. Hein. Vénus vagabonde, en se protégeant, parce qu'il ne faut pas que de ce plaisir résulte des maladies qui seraient très très désagréables.
Elle est tout de même restée assez simple pour une vedette.
Ouais, hyper simple.
Ouais, hyper cool, hein.
Ouais, sympa, cool, simple. Parfois même un peu simpliste, peut-être, enfin, sans remords, quoi. Peut-être pour ça qu'elle nous a si facilement laissé tomber il y a 18 ans.
Oh, tu vas pas remettre ça sur le tapis. On était pas fait pour la musique, on était pas fait pour la musique.
Dis donc, tu chantais comme un pied, faut te l'enfoncer dans le crâne quand même.
Ne parlez pas de moi. Bon, je parlais de lui. Aujourd'hui, il serait peut-être un des meilleurs musiciens de Los Angeles. Au lieu de livrer des jacuzzis pour toi.
Comment ça, Los Angeles?
Oui, parce que l'autre gros con, là, de Lou Bill Baker, il voulait lui faire signer un contrat. Et c'est elle qui a refusé. À cause d'elle, il a tout raté. Je mens?
Pourquoi? Tu penses que je suis un raté? Parce que moi, tu vois, le showbiz à la Lou Bill Baker, moi, ça me fait plutôt gerber. Hein. Alors, de toute façon, son contrat, je ne l'aurais jamais signé. Faut pas vous biler, les gars. Je serais jamais parti sans vous.
Bon, ben, je vais me faire un super café.
Hmm. Bon, allez,
on va se faire un super café?
Allez.
Un extrait de Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiret en 1989. Jean Salem, l'amitié, c'est la vertu cardinale chez Épicure, vous le disiez tout à l'heure.
Disons que c'est une vertu plus sûre et plus ouverte. C'est une pratique plus sûre et plus ouverte, un sentiment qui vous expose à moins de risques que l'amour-passion. Je dirais que pour ce qui est de l'amour au niveau du vécu profond... Je suis mal à l'aise si on présente Épicure comme une sorte de mécanicien de machin chose dont parle Michel Houellebecq. On n'a pas le temps, mais je le dis quand même, qui a fait un livre tout de même immonde, expliquant que la France va être gagnée par l'islamisme et les musulmans vont nous submerger. Mais bref, c'est pas important.
Sur l'amitié, sur la vertu cardinale de
ses expériences en Thaïlande.
Chez Épicure.
Alors, pour ce qui est de l'amour, non, il préconise l'amitié amoureuse, je dirais. L'amitié amoureuse.
À la montagne.
C'est-à-dire, oui, il faut pas se fondre dans un amour patient qui vous submerge. Lisez les lettres à Lou que tout le monde a lues, j'imagine, d'Apollinaire. La manière dont il attend la lettre suivante de sa chérie, bon, on sait qu'il est mort, il est mort, il en veut trop. Il va forcément la tétaniser, l'effrayer. Alors l'amitié, vous pouvez avoir, méfiez-vous de ceux qui disent qu'ils ont 50 meilleurs amis, mais vous pouvez avoir 3-4 excellents amis sans que ça suscite entre eux des jalousies, des rivalités, si vous savez gouverner tout ça, on dirait aujourd'hui gérer. L'amitié, quand c'est pas l'amitié de 30 ans entre politicards, politiciens, ça peut être paisible, pas excessivement intense, mais procurer des certitudes. On sait qu'on se reverra dans 2 ans, parce que pendant 2 ans, on est séparés au bout du monde l'un et l'autre, avec l'ami. c'est plus compliqué dans la relation fusionnelle qu'implique toujours l'amour ou ce qui en tient lieu.
Intervenez, réagissez sur franceinter.fr et sur Twitter, hashtag ça va pas la tête. Brigitte, hier encore.
Ça va pas la tête ? Ali Rebéi, ça va pas la tête ? Sur France Inter.
9h52 sur France Inter, comment appliquer la philosophie d'Épicure au quotidien avec Jean Salem, Thibaut de Saint-Maurice, Blandine Le Callais et Julien Bisson.
La règle d'or, c'est de continuer à aller de l'avant, de s'alléger des peurs et des regrets qui nous ralentissent. Et nous empêche de profiter pleinement d'un voyage qui ne sera que trop court. Oui, la route sera jalonnée d'imprévus, d'énormes surprises qu'on n'avait pas vues venir. Mais c'est là tout l'intérêt. Vous ne croyez pas ?
Un extrait de Desperate Housewives, la célèbre série américaine créée en 2004 par Marc Sherry. Thibaut de Saint-Maurice, pourquoi les héroïnes de la série devraient lire Épicure afin d'accéder à une certaine forme de bonheur?
Oui, bah, la réponse est dans la question, parce que ça, elles sont désespérées.
Donc, c'est pour aller vite, en fait.
Voilà, c'est ça. Non, mais comme elles sont désespérées, comme le titre l'indique, ce qui est important de dire aussi, c'est que ce sont des housewives, c'est-à-dire qu'on se situe dans cette série, dans cette fiction, dans un registre du domestique, hein. Elles ont toutes d'ailleurs des jardins devant leur maison ou derrière leur maison. Donc, on est dans ce registre aussi de la vie domestique, de la vie quotidienne qui, sur laquelle Épicure réfléchit ces temps. Le problème de ces héroïnes, hein, de Gabrielle, de Suzanne, de Linette, j'oublie la dernière. Elles savent pas très très bien mesurer les désirs de leur vie. Et en fait, tout Desperate Housewives, c'est l'apprentissage de la mesure de ses désirs. Et cette voix qu'on a entendue là, c'est la voix de Marie-Alice, qui est un peu la cinquième Desperate Housewives,
qui est morte,
non, puisque la série s'ouvre sur sa disparition. Mais de là où elle est, c'est-à-dire dans une sorte de ciel fictif, eh bien, elle peut comme ça jeter un regard sage. Et en fait, regarder Desperate Housewives, eh ben, c'est une forme d'apprentissage et de formation morale.
Blandine Le Callais.
De quoi ?
Sur Desperate, tout à l'heure, vous nous disiez des choses assez intéressantes, donc je voulais que
Non, mais j'étais assez fascinée par le décor de Wisteria Lane, qui est un décor épicurien, puisqu'on retrouve, vous le disiez, le thème du jardin, cette espèce de communauté qui a l'air de superficiellement très bien s'entendre, donc c'est la société des amis, et puis tout joue justement sur le contraste entre l'apparence, qui est celle du bonheur, disons épicurien, et puis les remous, qui sont les frustrations perpétuelles, et justement cette course à des désirs illimités.
Julien Bisson, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au magazine Lire. Alors pour vous, le héros épicurien parfait, c'est Candide de Voltaire.
Oui, parce
et
que...
pourquoi ?
Alors déjà, je voudrais dire qu'il y a très peu de héros épicuriens dans la littérature. Pourquoi ? Parce que les héros, les épicuriens cherchent l'ataraxie. Or l'ataraxie,
la paix de l'âme.
C'est justement la paix de l'âme. Et le ressort du drame, c'est tout le contraire. Le ressort du drame, c'est le trouble, c'est la rupture, c'est la recherche d'un idéal qui nous dépasse. Candide, c'est un personnage épicurien très intéressant, parce que quand le conte commence, le conte de Voltaire, Candide est un épicurien au sens où on l'entend généralement aujourd'hui. C'est un bon vivant qui aime bien la bonne chair et qui va se faire condamner parce qu'il a lorgné et embrassé Cunégonde, la fille du baron. Ensuite, il sera chassé du château de Westphalie où il avait passé son enfance. On connaît la suite, beaucoup de péripéties, le tremblement de terre de Lisbonne, jusqu'à cette conclusion où il rencontre tout d'abord un vieillard à Constantinople qui, dans son jardin, fait des confitures avec sa famille et qui lui apprend les valeurs familiales et qui lui apprend la joie des plaisirs simples. Et Candide et ses camarades, Pangloss, Cunégonde, Martin, vont se retirer dans une métairie et il va voir où ils vont se nourrir de cédrat confit et de pistaches et où il aura cette conclusion célèbre, il faut cultiver notre jardin. Or le jardin, on sait que chez Voltaire, c'est pas non plus un terme totalement anodin, puisqu'il parlait de sa demeure Les Délices, il en disait que c'était le palais d'un philosophe dans les jardins d'Épicure.
Alors Julien Bisson, on a, en discutant, réussi à dénicher un autre héros épicurien, Gaston Lagaffe Franquin.
Oui, Gaston Lagaffe, parce qu'on imagine souvent Gaston comme un personnage justement gaffeur, paresseux, mais c'est un paresseux actif, c'est quelqu'un qui recherche le plaisir de la sieste. Et puis c'est surtout un héros qui refuse tout ce qu'on peut lui proposer, les désirs non naturels, le pouvoir, l'argent, ça ne l'intéresse absolument pas, la gloire, ça ne l'intéresse absolument pas. Ce qui l'intéresse, ce sont les plaisirs simples, c'est une boîte de sardines, c'est une orangeade, c'est une après-midi de pêche. Et puis c'est aussi quelqu'un pour qui l'amitié est une valeur cardinale. On connaît sa galaxie d'amis, Bertrand Labévu, Jules de chez Smith en face, qui compte tout autant pour lui que sa relation, certes amoureuse, mais je ne pense pas passionnelle, avec Mademoiselle Jeanne.
Elle est très dépassionnée, cette relation.
Elle est assez dépassionnée, et si vous notez bien, la toute dernière case de Gaston, du tout dernier album, se passe, devinez où ? Dans un jardin.
Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, en fait, je suis assez d'accord, mais il y a peut-être une petite chose qui apporte une nuance, c'est que il me semble que Gaston est pas suffisamment dans le souci de la connaissance de ce qui l'entoure et de ce qui se passe en lui pour justement l'apprivoiser, se réconcilier, etc. Il exemplifie, c'est vrai, il incarne tout ce que vous avez décrit, mais le sage, on l'a dit plusieurs fois, etc., c'est quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui donc aussi est dans la connaissance des désirs en lui, des désirs des autres, de l'ordre, etc. Et je trouve que cette partie-là chez Gaston est moins présente et ça manque malgré tout parce que la connaissance fonde la sagesse.
Julien Bisson.
C'est vrai qu'il ressemble peut-être moins aux sages qu'aux petits-enfants dont parlait Jean Salem tout à l'heure.
Eh bien, merci à tous d'être venus. Alors, Julien Bisson, je recommande le hors-série que vous avez publié avec le magazine Lire, Franquin, le géant du rire, qui est disponible en librairie, dans une version...
Dans une version cartonnée et
album
augmentée.
De BD. Merci à tous. Vous pouvez retrouver toutes les références citées sur franceinter.fr à la page Ça va pas la tête. À la technique ce matin, il y avait Elisabeth Collet. Et pour terminer, je vous propose de méditer cette phrase de Mark Twain en cette journée de canicule. De bons amis, de bons livres et la conscience somnolente. Voilà le secret du bonheur.